Reportage.
Nos reporters vont sur le terrain pour enquêter. Comment vous appelez-vous ? Nous poursuivons notre émission sur les projets agroécologiques menés ici sur Agripol avec Claudia. Bonjour Claudia.
Bonjour.
Tu t'es intéressée à l'éco-pâturage et plus particulièrement à l'installation d'un troupeau ovin sur le lycée. Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Oui. D'abord, je vais vous parler de la race Avranchin, la race choisie par le lycée. L'Avranchin est une race ovine de région Basse-Normandie au département de la Manche. Son nom Avranchin vient de la ville Avranches. Cette race est apparue dans l'année 1820 avec le croisement d'une race ovine de la Manche et toute autre race, mais au jour d'aujourd'hui, cette race est une race patrimoniale menacée. Pourtant, il n'est pas ayant une tête large et plutôt une courte couleur brunâtre. Les oreilles sont de taille moyenne et mince et la même couleur que sa faciale. Sa moufle est large, en couleur est assez courte et sans puits ni fanon. Ses membres sont plutôt courts avec des onglons bruns foncés et sa toisonde est blanche serrée à grains. En deuxième, le verger de lycée et l'éco-pâturage. Chez le lycée, on a 6 hectares du verger pommier et pour enfin faire la jus de pommes biologiques qui sont aussi vendues par le lycée. On a mis en place que les ovins pouvaient pâturer dedans. Les objectifs avec l'éco-pâturage sont de favoriser l'équilibre environnemental et limitant l'intervention non mécanisée dans le verger et aussi de favoriser la biodiversité.
Merci Claudia. Nous sommes toujours avec Antoine, comme je le disais tout à l'heure, avec Romain, Anton et Tom. Vous vous êtes intéressés à la question de diminution des intrants en agriculture. Vous nous proposez pour rentrer dans le sujet un micro-trottoir.
Oui, nous sommes d'abord allés à la rencontre d'Audrey, surveillante sur l'établissement, Maëva, ancienne élève actuellement étudiante en diététique, et Madame Barbier, comptable, pour faire un tour de la question et connaître l'avis des gens sur le sujet. Je vous propose d'écouter cela tout de suite.
Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons avec Audrey, surveillante au lycée agricole de Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Oui, bonjour Audrey, assistante d'éducation au lycée. Pour la question concernant la réduction des intrants, je pense qu'il faut vraiment y réfléchir pour le futur, pour la terre, parce que tout ce qui entre dans la terre se retrouve dans notre alimentation. Et je pense que personne n'a envie d'avoir des pesticides dans son assiette tous les jours, et je pense que c'est très important de les réduire, sachant qu'en plus il y a de plus en plus d'agriculteurs qui ne les utilisent plus et qu'il y a d'autres méthodes pour travailler la terre et pour l'agriculture bien plus intéressantes que d'utiliser des intrants.
D'accord, et du coup si vous aviez le choix, vous stopperez directement les intrants ou pas ?
Bah, c'est sûr que dans l'idéal, ce serait bien, mais je pense que c'est difficilement réalisable. Je pense que déjà, commencer par diminuer les intrants, ce serait déjà très très bien pour arriver à la fin, à les arrêter totalement, oui.
D'accord. En tout cas, ben, merci beaucoup et à plus tard. Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons avec Maëva, BTS en diète au lycée agricole de Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Bonjour.
Que pensez-vous des intrants et pensez-vous qu'on devrait les diminuer ?
Je pense que oui, on peut les diminuer, surtout que maintenant il y a de bonnes méthodes alternatives qui sont mises en place. Et surtout du coup, d'un point de vue diététique, c'est meilleur pour la santé. On trouve moins de résidus dans le foie, etc. Donc non, c'est une bonne chose.
D'accord. Et du coup, vous seriez pour les stopper ?
Oui, pourquoi pas, si après il y a de bonnes alternatives et que ça n'empêche pas les agriculteurs de produire de même quantité, avec la même production.
D'accord, merci. Bon, en tout cas, merci pour cette interview.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Madame Barbier, secrétaire de l'administration. Je vous laisse vous présenter.
Oui, bonjour, je suis Gaëlle Barbier, la gestionnaire de l'établissement, donc en charge de tout ce qui est restauration et hébergement notamment.
Donc aujourd'hui, nous allons parler de la diminution des intrants. Donc que pensez-vous des intrants dans l'agriculture pour votre consommation?
Moins il y a d'intrants, mieux on sait ce qu'on consomme. Donc c'est préférable.
D'accord.
Afin de bien comprendre de quoi nous parlons, dans un premier temps, Romain est allé interroger Madame Imhoff, enseignante de zootechnie, qui nous rappelle ce que cela signifie en termes d'élevage. Ensuite, nous pourrons entendre Monsieur Levray, enseignant d'économie, qui nous donne son point de vue économique sur la diminution des intrants. Et pour finir, nous trouverions intéressant d'avoir le point de vue de Monsieur Le Carpentier, enseignant d'agronomie. Enfin, nous sommes allés interviewer Monsieur Gobet, directeur de l'exploitation du lycée, que nous accueillerons dans quelques minutes pour en savoir concrètement en quoi consiste la diminution des intrants sur l'exploitation du lycée. Je vous propose de les écouter.
Bonjour, et aujourd'hui nous nous retrouvons avec un nouvel invité.
Bonjour.
Bonjour, vous pouvez vous présenter?
Donc c'est Cécile Imhoff, enseignante de zootechnie au lycée de Saint-Hilaire-du-Harcouët.
D'accord, merci. Aujourd'hui nous avons une question à vous poser par rapport à l'agriculture. Faut-il diminuer les intrants dans le monde de l'agriculture?
Alors je vais parler en termes d'élevage. Donc tout ce qui est appelé intrants en élevage, ça peut être les antibiotiques, mais ça peut aussi être tous les aliments qui sont achetés, par exemple, pour compléter la ration des animaux. Donc là, on part plutôt sur de l'autonomie alimentaire. Alors, en termes d'antibiotiques, il faut les diminuer. Tout simplement déjà pour la santé humaine, parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on produit, tout ce qu'on fait produire par les animaux, après, ce sera consommé. Donc, si on retrouve des résidus d'antibiotiques dans la viande ou dans le lait, forcément, ça va avoir des répercussions sur la santé humaine. Mais également sur l'environnement, donc les traitements antibiotiques qui se retrouvent dans la nature, qui se retrouvent dans l'eau, dans les sols, qui peuvent polluer les ressources en fait, et donc qui à leur tour peuvent aussi avoir des conséquences sur la santé humaine. Donc de ce côté-là, oui. Et en plus, on sait aussi que un excès d'antibiotiques peut entraîner des antibiorésistances. Donc on fabrique des germes en fait super résistants à nos antibiotiques, ce qui ne présage rien de bon. Après, concernant l'autonomie alimentaire et la réduction des intrants dans les rations des animaux, ça a différentes conséquences. En fait, c'est pas du tout les mêmes conséquences. Ça peut avoir des conséquences environnementales parce que les concentrés achetés pour les animaux, ils sont livrés en camion, donc ça peut avoir des conséquences au niveau du changement climatique par l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Mais après, ça a forcément des conséquences économiques aussi, l'achat d'intrants pour nourrir les animaux, puisque on sait que ça coûte plutôt cher les concentrés, notamment les tourteaux de soja, par exemple. Hein. Donc, ça a des conséquences économiques pour l'exploitation. Et donc, je pense que ça peut être intéressant, oui, de viser l'autonomie alimentaire en produisant les concentrés nous-mêmes sur les exploitations agricoles.
D'accord, merci beaucoup. Donc, vous envisageriez de les stopper si vous pouvez?
Il faut les diminuer, autant qu'on peut, quoi. Après, on peut pas les stopper complètement. Je suis pas pour les stopper complètement parce que non, si on les utilise, c'est que quand même, à un moment, on a rencontré un besoin et que même si c'est des molécules chimiques. Je dis pas qu'il faut les stopper. Si je parle d'antibiotiques, je dis pas qu'il faut les stopper complètement, mais au moins en réduire l'utilisation et les utiliser de façon raisonnée.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview et à plus tard. Bonjour. Aujourd'hui, nous retrouvons avec Monsieur Levray, enseignant d'économie au lycée agricole de Saint-Hilaire-de-Harcouët.
Bonjour à vous. Alors la question qui m'est posée, c'est faut-il essayer finalement de limiter les intrants au sein d'une exploitation agricole? Alors on le voit bien, la situation actuelle de l'économie nous le montre. Les exploitations en effet finalement qui présentent le moins de dépendance aux intrants sont certainement celles qui présentent le plus de durabilité, dans le sens où elles ne sont pas dépendantes finalement de la variation des prix, de la volatilité des prix aujourd'hui qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus brutales, quoi. Alors la limitation des intrants, ça va passer notamment sur la capacité à limiter son utilisation de l'énergie. C'est aussi l'autonomie alimentaire, hein, donc essayer de favoriser au maximum l'autonomie alimentaire pour ne pas avoir à subir notamment la variation des prix et bien des intrants alimentaires. Donc ça va participer. Donc on constate en effet que toutes ces exploitations-là, en effet, qui ont la capacité finalement de pouvoir bien limiter leur dépendance à l'extérieur, vont pouvoir avoir peut-être une meilleure entre guillemets, durabilité économique. Et puis aussi, en termes de charge de travail, souvent, c'est bien celles qui vont présenter peut-être moins de travail ou en tout cas une qualité de travail autre que celle que nous pouvons rencontrer sur les exploitations très dépendantes des intrants.
D'accord, merci. Et du coup, vous êtes pour ou contre les usages des intrants ?
Ah bah, je suis plutôt pour, dans le sens où, en effet, une exploitation, l'objectif, c'est d'arriver à répondre aux objectifs qui sont donnés en termes de durabilité, à la fois économique, sociale et environnementale. Si la limitation des intrants permet ça, en effet, on est plutôt pour, quoi. Mais c'est pas toujours évident. Faut encore avoir, en effet, une structure d'exploitation qui permette ça. C'est pas toujours le cas, quoi. Une exploitation, par exemple, qui veut favoriser, en effet, l'alimentation herbagère, faut-il qu'elle ait, un parcellaire qui soit groupé, quoi. Et c'est pas toujours évident, d'accord? Donc, c'est pas toujours automatique. Il faut s'adapter aux environnements que nous avons.
D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette interview, monsieur. Bonne journée.
Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Le Carpentier, professeur d'agronomie au lycée agricole de Saint-Hilaire.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous vous interviewons pour savoir ce que vous pensez de l'usage des produits phytosanitaires en agriculture.
Alors, l'usage des produits phytosanitaires, donc à une époque, ça a permis quand même de bien protéger, d'améliorer les productions, les rendements. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il y a encore un abus donc de l'utilisation. Et de plus en plus, on connaît les risques liés à l'utilisation de ces produits-là et surtout l'utilisation abusive. Donc, je pense qu'effectivement, il est important de mettre des réglementations en place pour limiter, voire supprimer l'utilisation de ce type de produits.
Quels sont les risques ?
Les risques pour l'environnement d'une part, donc avec pollution de l'eau, donc l'eau que nous consommons. Les pollutions du sol, et puis après surtout, de plus en plus, on s'aperçoit donc des risques pour la santé humaine et même pour l'utilisateur, puisque maintenant des maladies ont été reconnues liées à l'utilisation de ces produits phytosanitaires, et donc c'est reconnu comme maladie professionnelle. Donc c'est que, à mon avis, il y a quand même effectivement un risque important par rapport à l'utilisation de ces produits-là.
Vous êtes pour ou contre ?
Plutôt pour, ou une utilisation peut-être parfois très raisonnée, mais on s'aperçoit que dans certains types d'agriculture, on réussit à produire donc sans l'utilisation de ces produits-là.
D'accord, merci de nous avoir accordé ce temps pour vous interviewer.
Merci à vous et puis bon courage.
Merci, au revoir. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des intrants avec monsieur Gobet qui s'occupe de l'exploitation du lycée agricole de Saint-Hilaire.
Bonjour.
Alors nous avons quelques questions à vous poser sur les intrants.
Oui, pas de souci.
Alors pourquoi diminuer les intrants dans une exploitation d'un lycée ?
Alors diminuer les intrants, ça fait partie, alors pas que seulement que d'un lycée, ça fait partie ça fait partie du monde agricole, hein, c'est-à-dire que toutes les exploitations, on doit maîtriser nos coûts et les intrants en font partie. Donc c'est aussi une question économique, alors, d'une part. Et puis nous, après, on a aussi une mission de vous enseigner à produire autrement. Et c'est-à-dire qu'on doit être capable de produire autant de fourrage que les autres, avec beaucoup moins d'intrants, voire pas du tout d'intrants. Alors les intrants, c'est large, hein. Les intrants, ça concerne les engrais, ça concerne les produits phytosanitaires. Et en fait, votre question, elle est plutôt orientée vers les produits phytosanitaires. Alors nous, on va essayer de réduire, voire de mettre à zéro, de plus utiliser les produits phytosanitaires sur l'exploitation. Voilà.
Après, d'accord, mais comment réussir à les diminuer ou même les arrêter ?
Alors aujourd'hui, par exemple, nous sur l'exploitation, on produit du maïs sans silage. Donc le maïs sans silage, forcément, on doit nécessairement éviter la concurrence avec d'autres plantes qu'on ne cultive pas. Donc c'est vrai que la simplicité, c'est d'utiliser des produits chimiques, hein, des désherbants chimiques et qu'on utilise avec les doses homologuées, en appliquant aux dates clés, avec les bonnes périodes d'épandage, etc. Alors ça, c'est la première chose. Mais depuis quelques années, et depuis de nombreuses années, il y a des alternatives, hein, c'est-à-dire qu'il y a du désherbage mécanique qui se met en place. On a déjà essayé sur le lycée l'année dernière avec des nouvelles machines, hein, qui permettent de nettoyer le rang et entre les rangs.
D'accord. Quelles sont les réglementations à respecter? Est-ce que le ministère vous oblige à diminuer les intrants ?
Alors le ministère, nous, pour l'instant, on n'a pas de mission, on est un peu traité comme tous les agriculteurs. Les agriculteurs, donc c'est un plan éco-phyto qui date de longue date, hein, il y en a eu plusieurs successifs, visant à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Le dernier prévoyait la réduction de 50%. Maintenant, ce n'est pas dit ouvertement, mais je pense qu'à un moment donné, nous, les fermes de lycée agricole, on représente plus ou moins le ministère de l'Agriculture, dans ces pratiques, c'est des politiques publiques et on est chargé de les mettre en place. En fait, c'est les politiques publiques, on est missionné pour ça. Et moi, je pense qu'à un moment donné, ils vont nous dire, prouver qu'on peut se passer des produits phytosanitaires. Et c'est là, c'est une de nos missions. Voilà.
Alors, quelles sont les réglementations à respecter par rapport à l'utilisation des intrants ?
Alors, les intrants, c'est encore une fois, c'est large. Hein. Donc, on va parler encore des produits phytosanitaires. Parle-moi que des produits phytosanitaires. Parce que l'engrais, il n'y a pas de réglementation. Il y a des doses à respecter, par exemple. Mais sur les produits phytosanitaires, forcément, c'est hyper réglementé. Alors, première chose, pour pouvoir acheter et appliquer les produits, moi et Christophe, on doit avoir un diplôme qui s'appelle un certificat phyto. Donc, ça, c'est délivré par le ministère. Donc, c'est une certification qui nous permet d'utiliser les produits de façon efficace et surtout... une manière maîtrisée. Donc ça, c'est la première des choses. Après, il s'agit de l'application. Donc l'application, on doit utiliser du matériel qui est homologué, qui est contrôlé. Donc le contrôle, il est obligatoire pendant tous les 3 ans. Donc nous, on est équipé d'un pulvérisateur sur l'exploitation. Mais moi, j'ai fait le choix, alors, pour plein de raisons. Parce que, en fait, les moments d'application des produits, ils sont simples. C'est soit le matin de très bonne heure, soit le soir tard. C'est parce que les conditions climatiques sont là les meilleures, c'est-à-dire absence de vent et présence d'hygrométrie. Voilà, donc c'est ça d'application, c'est plutôt le matin ou le soir. La seule chose, c'est que moi ou Christophe, en fait, on est géré par une réglementation du travail. Alors moi, pas trop, mais Christophe, si. Donc c'est les 35 heures et le 35 heures. Et c'est-à-dire que si je commence à le faire travailler le soir, ça va être une autre réglementation. Donc je peux pas. Donc depuis un an, depuis que je suis en place, en fait, c'est une entreprise extérieure qui est agréée pour éprendre les phytos de notre place. Et eux, ils ont toute liberté d'intervenir la nuit, le jour, dans les très très bonnes conditions climatiques pour appliquer les produits. Voilà. C'est un choix personnel que j'ai fait depuis un an et on va continuer comme ça. Il y a autre chose, c'est que, c'est malheureux à dire, mais c'est l'entreprise qui gère ce paramètre-là, bon, contrôlé par moi, hein, c'est moi qui donne les ordres. Par contre, moi, j'expose pas mon salarié avec des produits phytosanitaires. Et je m'expose pas non plus, parce que faut être lucide, hein, les produits phytosanitaires, c'est quand même des produits qui peuvent être dangereux, qui sont dangereux. Voilà.
Ça coûte cher ou pas de faire par l'entrepreneur, non ?
Alors, le prix de l'entreprise, simplement. Aujourd'hui, si Christophe l'applique, il va me coûter à peu près 20 euros de l'heure. Le tracteur va me coûter 20 euros de l'heure, plus le pulvérisateur, plus le produit, on le compte pas parce que de toute façon, il faudra que je l'achète quand même. Bon, globalement, on va me dire que ça va me coûter, 50 euros de l'heure si je fais faire à Christophe. Bon, ça, c'est le côté économique. Il y a un côté, il faut un équipement spécial, c'est-à-dire des gants, des masques, etc., qui soient homologués. Et puis l'autre côté qu'on peut pas mesurer, c'est par rapport à Christophe, c'est l'exposition au produit. Bon, l'entreprise me prend exactement 27 euros de l'heure. 27 euros de l'heure, c'est même pas de l'heure, c'est de l'hectare. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils interviennent à 27 euros de l'hectare, le travail est fait, le gasoil est fait, etc. Donc il n'y a même pas de calcul à faire. Voilà.
Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de diminuer les intrants ?
Alors. Les inconvénients, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les inconvénients, bon, ici, il y en a quelques-uns quand même, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, une méthode simple pour produire du maïs, c'est avec des produits phytosanitaires. C'est-à-dire qu'on va semer notre maïs, on va pulvériser 2 voire 3 fois, et le maïs, il va être propre. Donc ça, c'est un avantage. Par contre, c'est un avantage qui est coûteux. Alors, coûteux économiquement, coûteux pour l'environnement, coûteux pour la santé humaine. Donc ça, c'est ce chiffrage-là, c'est vrai que jusqu'à maintenant, le modèle agricole, il est plus stable là-dessus. Comme je vous l'ai expliqué, on a des politiques publiques qui sont mises en place par le gouvernement. Nous, on est chargé de les faire appliquer ou de les montrer que c'est applicable. Donc, c'est vrai que l'inconvénient de diminuer les intrants, c'est que ça va nous obliger, et encore que ce n'est pas une obligation, nous obliger à travailler d'une façon différente. Alors, il y a deux choses. Soit on continue à produire du maïs avec des méthodes alternatives de désherbage, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, désherbage mécanique, etc. Ou associer des cultures ensemble pour éviter la concurrence. Ou alors, on arrête le maïs et on fait d'autres cultures qui n'ont pas besoin d'intrants, qui n'ont pas besoin de produits phytosanitaires.
Alors, quel impact sur l'environnement ?
L'impact, forcément, l'application de produits phytosanitaires, ça, il n'y a même pas besoin d'en discuter. Forcément, il y a de l'impact sur le milieu, il y a de l'impact sur la vie du sol, il y a de l'impact sur les pollinisateurs, il y a de l'impact sur le voisinage, il y a de l'impact sur la santé humaine. Donc, il n'y a même pas à discuter. Oh la vache! Il y a du vent. Voilà, donc c'était quoi ton autre partie de question ? L'avantage et l'inconvénient, je ne sais plus.
Alors, oui, avantage et inconvénient.
Alors, l'avantage, comme je vous l'expliquais, c'est la simplicité, etc. Mais bon, c'est vrai que forcément, c'est la simplicité, c'est uniquement ça l'avantage qu'il y a. Mais en face, on a quand même beaucoup, beaucoup d'inconvénients. Voilà.
Est-ce qu'être autonome en alimentation peut s'associer avec la diminution des intrants ?
Alors, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes parce que nous, la problématique qu'on a sur l'établissement, c'est qu'on manque un peu de surface. On n'a pas vocation à avoir une grosse, grosse surface parce que c'est pédagogique. Maintenant, aujourd'hui, dans le système qu'on a, aujourd'hui, on a 60 hectares. Et pour être à l'aise, pour vraiment encore diminuer les intrants, il faudrait 10-15 hectares de plus. Simplement, c'est que c'est des méthodes traditionnelles, hein, c'est de l'enseignement de base. C'est-à-dire qu'on va faire des rotations, on va pouvoir faire diversifier les cultures, et à partir du moment qu'on diversifie les cultures, forcément, les espèces concurrentes, elles sont moins présentes, parce qu'on casse le cycle des adventices, etc. Là, on est plutôt en monoculture. Alors, on n'est pas tout à fait en monoculture, on fait maïs, on fait des couverts, des cultures intermédiaires, mais on revient tout le temps sur une base maïs. Si on avait quelques céréales dedans, quelques protéagineux, ça nous permet de casser les cycles des adventices. Aujourd'hui, la problématique pour ça, pour ce qui est du lycée, c'est le manque de surface disponible. En sol cultivable. C'est de 10 à 15 hectares. Voilà. Mais il n'y a pas de solution, il y a des pistes, mais on n'a pas de solution réelle. Et c'est ce qui va m'empêcher de progresser assez vite. Maintenant, eh bien tant pis, on va travailler avec ce qu'on a, on a 60 hectares, on va essayer de rationaliser, et quitte à peut-être à acheter des fourrages à l'extérieur. Voilà. Après, l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'on est en capacité, alors j'ai plein de solutions, on est en capacité, dans la mesure où je me dis, j'aurai jamais de surface supplémentaire, je reste avec mes 60 hectares. J'ai deux solutions. Soit j'achète des fourrages à l'extérieur, qui vont être produits, je ne sais pas comment, avec des phytos, etc. Si on est dans une logique de dire, on fait consommer à nos animaux des produits sains, des fourrages sains, donc ça, c'est pas possible. Deuxième solution, qui m'embêterait aussi, c'est-à-dire diminuer la production. C'est-à-dire que je vais adapter mon cheptel laitier, ma production laitière, aux surfaces que j'ai. Ça peut être une des solutions. Par contre, on peut diminuer un petit peu, mais il reste quand même des salariés à payer, il y a quand même des charges à payer, et il y a surtout un équilibre financier à trouver. Voilà. Donc c'est la problématique, et c'est ma mission, c'est mon rôle en tant que directeur d'exploitation, de gérer ça, et de trouver des solutions, et de proposer des solutions. Voilà.
Alors, est-ce que cela diminue votre indépendance ?
Alors, répète ta question.
Est-ce que cela diminue votre dépense ?
Alors, nos dépenses, alors, c'est-à-dire l'utilisation de la baisse des intrants ? Bah oui, forcément, puisque les produits phytosanitaires coûtent hyper cher, hein, donc au niveau économique. Alors, ils coûtaient très cher pendant des années, et puis depuis l'année dernière, j'ai plus l'exemple d'un produit, mais il a quasiment doublé de prix de par la crise qu'on traverse. Voilà.
Après, l'argent que vous ne dépensez pas dans les produits phytosanitaires, où la réinvestissez-vous
Si vous avez bien compris que si j'utilise pas de produits phytosanitaires, il va falloir que je mette des méthodes alternatives. Ça va être du désherbage mécanique. Voilà, donc forcément, on n'est pas équipé. Ça aussi, c'est un petit défaut. Bah, c'est un petit défaut. C'est une contrainte. Bon, on fonctionne avec des cumins parce que c'est bien présent sur le cumin, donc sur les cumins du secteur. Mais en fait, ça va me coûter de l'argent aussi. Mais à somme identique, il faut mieux faire du désherbage mécanique. Voilà.
Merci de votre temps passé pour nous répondre.
Pas de souci, je vous remercie. Et puis, de toute façon, c'est un sujet sur les diminutions des produits phytosanitaires. Alors, on parlait de diminution d'intrants, mais il y a plein de choses dans les intrants. La diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires, sur l'établissement, vous n'avez pas fini d'en parler. Et j'ai déjà fixé l'objectif, hein, et je l'avais fixé en 2025, c'est plus de produits phytosanitaires sur l'exploitation. Et vu les circonstances et vu l'environnement et la demande du consommateur, je pense qu'on va essayer de mettre ça en place à partir de 2024 sur les cultures. Alors, il faut que j'y réfléchisse, hein, parce qu'il faut quand même que je sois en capacité de nourrir mes animaux. La problématique que j'ai aussi, c'est par rapport aux conditions climatiques, réchauffement climatique, on peut pas tourner le dos à ça. Moi, je me souviens de l'été dernier, c'est vrai que juillet, il a fait des grosses températures, on est en système pâturant, et puis d'un coup d'un seul, sur 15 jours, on n'a plus d'herbe à donner aux animaux. Donc là, il faut que je sois en mesure de constituer quand même des stocks pour redistribuer. Il faut que j'assure l'alimentation de mes animaux, ça fait partie du bien-être animal. Donc oui, je peux mettre des méthodes alternatives. Ce qu'il y a, il faut que ça soit raisonné et puis qu'on ait tout le temps des fourrages à disposition de nos animaux. C'est ça l'enjeu, mais on va y arriver. On va y arriver parce que bon, je suis pas tout seul à travailler. Hein. C'est un projet d'équipe pédagogique hein, sur les, tous les profs techniques de l'établissement. On travaille tous ensemble et on réfléchit. On réfléchit ensemble et bientôt on va. Ça c'est peut-être un scoop, mais je vais. On fait des conseils d'exploitation réguliers pour tenir compte de ce qu'on fait, montrer ce qu'on fait, les finances, les orientations. Et je veux associer les élèves. Donc prochainement, vous allez être au courant de ça. C'est, je veux faire un conseil d'exploitation spécial élèves. Voilà. Donc ça, vous serez informé dans les semaines qui viennent de ce projet-là. Voilà. Merci pour vos questions et puis bon courage.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup Antoine et à toute ton équipe. Je passe l'antenne à Tom, qui accueille justement Monsieur Gobet, directeur de l'exploitation du lycée, pour en savoir plus sur cette exploitation.